Bien. Mesdames, Messieurs, j'ai été très heureux donc de recevoir à Paris aujourd'hui Jens Stoltenberg et je le remercie de sa visite. Nous avions eu l'occasion de nous rencontrer et d'échanger lors de la réunion spéciale des chefs d'État et de gouvernement à l'OTAN le 25 mai dernier. Et Jens Stoltenberg est également intervenu jeudi dernier devant le Conseil européen à Bruxelles. Je crois que c'était une intervention très appréciée avant la cérémonie de lancement de la coopération structurée permanente européenne. Nous avons discuté à l'instant de l'évolution de notre environnement de sécurité et nous avons ainsi pu aborder l'ensemble des grands sujets qui vont nous occuper dans les semaines et mois qui viennent alors que nous entrons dans la phase préparatoire du sommet de l'OTAN de juillet 2018. Et je pense notamment à la posture de dissuasion et de défense de l'Alliance, au rôle de l'OTAN en matière de renforcement des capacités de nos partenaires, y compris dans le cadre de la coalition contre Daesh, ou encore à l'adaptation des structures de l'organisation. Je pense que l'OTAN a un rôle extrêmement important à jouer, évidemment dans la guerre contre Daesh dans la zone irako-syrienne, dans l'après-guerre dans la zone aussi, pour continuer à construire des capacités, une sécurité propre justement sur place, mais également en Afghanistan et dans tous les théâtres d'opérations qui pourraient intervenir post-conflit, qui seront de nouveaux théâtres d'opérations. Et nous avons décidé là-dessus d'échanger de manière très régulière. Mais plus largement, nous avons évoqué l'ensemble des zones de tension proche au Moyen-Orient et en Afrique, parce que je pense qu'il est important d'avoir cet échange stratégique. Cette rencontre a aussi été pour moi l'occasion de rappeler la place particulière qu'occupe la France dans l'Alliance. La France considère, et d'ailleurs la revue stratégique dont vous avez dû parler hier soir avec la ministre des Armées vient de le rappeler, que l'OTAN joue un rôle essentiel dans la défense et la sécurité de l'Europe. Et cette organisation militaire est aussi une manifestation concrète du partenariat qui nous lie aux États-Unis et au Canada, auquel je suis tout particulièrement attaché. J'ai pu réaffirmer également au secrétaire général de l'OTAN que la France restera un allié indépendant, exigeant mais crédible au sein de l'Alliance. Et la prochaine loi de programmation militaire sera à cet égard un jalon important pour porter à horizon 2025 les ressources de la défense à 2% de la richesse nationale. C'est un engagement que j'ai pris et nous nous mettons en capacité de le tenir. Et nous sommes par ailleurs le troisième contributeur au budget de l'OTAN. Nous sommes un des rares alliés à disposer d'un outil de défense éprouvé, couvrant l'intégralité du spectre des capacités militaires et fortement engagé en opération au service de la sécurité de la France, de l'Europe et de l'Alliance. J'ai également pu réaffirmer la volonté de la France de continuer à contribuer au dispositif de l'Alliance dans le cadre de la défense collective, comme nous le faisons aujourd'hui en Estonie avec la mission Lynx dans le cadre de la présence avancée renforcée. Et je me suis d'ailleurs rendu il y a quelques semaines auprès de nos troupes sur place et j'ai vu la qualité de l'organisation du travail qui était mené. Je voudrais pour terminer rendre hommage au secrétaire général pour nous avoir libérés d'un débat stérile qui avait jusqu'ici fortement handicapé la réflexion collective sur les questions militaires. Le débat consistant à savoir si l'OTAN était compatible avec une Europe de la défense. Et vous avez admirablement montré la semaine dernière en vous exprimant devant les chefs d'État et de gouvernement que oui, de manière très décomplexée et qui me convient. et vous l'avez rappelé lors de notre échange, une Europe de la défense, c'est une Europe qui se met en capacité de contribuer beaucoup plus efficacement à sa propre sécurité et d'être une composante efficace et crédible au sein, justement, de l'Alliance. C'est sous votre impulsion, cher Jens, que les relations entre l'OTAN et l'Union européenne se sont formidablement améliorées. Et c'est grâce à cela aussi que les deux organisations peuvent aujourd'hui collaborer et que l'Union européenne a pu avancer vers la coopération structurée permanente que nous avons installée la semaine dernière et à laquelle, vous le savez, je tiens beaucoup, parce que nous avons pu convaincre l'ensemble des États membres que cette initiative était compatible avec l'OTAN. Je me réjouis à nouveau, Monsieur le Secrétaire général, cher Jens, de votre présence aujourd'hui. Je veux à nouveau vous féliciter, comme je l'avais fait le jour même de votre réélection, et vous dire que nous continuerons à travailler étroitement ensemble en toute confiance au service de l'unité et de l'efficacité de l'Alliance et en vue du sommet de juillet prochain. Merci à vous et bienvenue à nous.
Merci, Monsieur le Président. Dear Emmanuel.
Cher Emmanuel, c'est un grand plaisir que d'être ici à Paris, d'avoir cette rencontre avec vous. Grâce notamment à votre engagement ferme en faveur des institutions internationales, la coopération internationale, ainsi que votre engagement en faveur de l'OTAN en tant qu'alliance transatlantique. Je tiens à vous remercier pour cet engagement ferme en faveur de cette idée de la modernisation pour moderniser non seulement la société française, mais pour soutenir les efforts afin de moderniser l'OTAN en tant qu'alliance. La France est un allié essentiel au sein de l'OTAN. Vous assurez des forces et des capacités robustes. Vous avez démontré à moultes reprises que vous êtes prêt à déployer des forces lorsque nécessaire et en ce faisant, vous réalisez une contribution majeure à notre défense collective. La France réalise d'autres contributions. Vous êtes l'un des pays chefs de file pour notre VJTF, notre task force à très haut niveau de préparation. Vous contribuez des troupes afin d'accroître notre présence à l'est de l'Alliance. En fait, j'ai rencontré des troupes françaises en Estonie récemment, des troupes très engagées, très professionnelles. Vous avez également engagé à contribuer des forces en Lituanie l'année prochaine. La France joue un rôle important dans la lutte contre le terrorisme. Vous avez une présence importante dans le Sahel et vous jouez un rôle important dans la coalition mondiale contre Daesh en Irak et en Syrie. De plus, la France donne l'exemple. Vous avez un engagement clair et ferme afin de relever cet objectif de consacrer 2% du PIB à la défense. Donc la France est un allié très important au sein de l'OTAN. Nous venons d'avoir une discussion excellente. Ensemble, nous avons discuté de l'adaptation de l'OTAN. C'est vrai que l'OTAN a déjà dû faire face à un environnement de sécurité beaucoup plus exigeant depuis 2014 notamment. Nous avons mis en place le plus grand renforcement de notre défense collective depuis la fin de la guerre froide. Nous avons renforcé nos efforts afin de combattre le terrorisme international. Toutefois, plus d'efforts sont nécessaires. Nous avons évoqué les prochaines étapes dans l'adaptation de l'Alliance, notamment les adaptations à la structure de commandement de l'OTAN et de voir comment nous pouvons renforcer cette lutte contre le terrorisme. Je pense que l'une des meilleures armes dans cette lutte contre le terrorisme consiste à former des forces locales, de renforcer des capacités locales afin que les forces locales puissent stabiliser leur propre pays. Et c'est très exactement ce que fait l'OTAN en Afghanistan, en Irak, et cela correspond à ce que nous avons fait avant dans les Balkans. Et en tant que membre de la coalition mondiale pour lutter contre Daesh. À présent, nous voyons comment renforcer nos efforts de formation des forces irakiennes pour que celles-ci puissent stabiliser leur pays. Vous avez évoqué la coopération OTAN-UE. Je me félicite de voir que nous avons pu rehausser cette coopération. Nous travaillons sur un grand nombre de sujets, y compris des pratiques de guerre hybride, la lutte contre le terrorisme, la cyberdéfense, ainsi que la mobilité militaire. Je suis un convaincu d'une Europe de la défense. En fait, l'OTAN a appelé à une défense européenne de longue date. Maintenant que l'Europe renforce ses efforts, nous devons l'applaudir, car une défense européenne plus forte, davantage de coopération de défense au sein de l'Union européenne, peut mener à des dépenses militaires plus importantes, des capacités accrues, ainsi qu'un meilleur partage de fardeaux transatlantiques au sein de l'Alliance. Mais il faut s'assurer que les efforts soient complémentaires, qu'il n'y a pas de concurrence entre nous, que nous travaillons ensemble afin d'éviter tout doublon inutile. Je me félicite de cette coopération étroite avec la France. Je suis heureux de maintenir ce travail avec vous. J'ai hâte de vous accueillir à Bruxelles au sommet au mois de juillet prochain. Merci.
Y a-t-il des questions?
It's Johan Falnes from the Norwegian.
Johan Falnes de la Norvège. Excusez-moi de m'exprimer en anglais, Monsieur le Président. Poursuivons ce débat stérile alors, pendant quelques instants. Si vos visions pour la défense européenne se concrétisent et deviennent réalité, dans quelle mesure est-ce que l'Europe sera toujours dépendante des alliés non OTAN pour sa sécurité? Est-ce que l'Europe pourrait être réellement souveraine si sa protection dépend de pays en dehors de l'Europe? Et pour vous, Monsieur le Secrétaire général, le président Macron affiche des ambitions très importantes au nom de l'Union européenne. Estimez-vous qu'il est important de le freiner quelque peu? Ou y a-t-il des idées qu'il a présentées en termes de défense européenne qui vous font hésiter? Ils vous font hésiter?
Un graphique que m'a donné le secrétaire général. Ce sont les contributions des membres non américains à leur défense collective. Vous voyez que depuis 2015, c'est en train d'augmenter. La France, comme je vous l'ai dit, est le troisième contributeur. Et la France va augmenter chaque année considérablement son budget, puisque la trajectoire dans laquelle nous sommes mises est d'au moins 1,5 milliard par an sur les prochaines années dans le collectif budgétaire et d'atteindre les 2% à horizon 2025. Donc moi, je vous rassure, je suis une puissance souveraine sur le plan militaire. La France a une armée qui a toutes les capacités, qui est très bien formée, très bien équipée, qui intervient sur tous les théâtres d'opération, indépendamment de l'Alliance. Et une armée qui s'inscrit dans l'Alliance, et nous contribuons par l'augmentation de nos efforts à la trajectoire que je viens d'évoquer et aussi à un meilleur burden sharing, comme on dit en bon français. Donc nous y prenons notre part. Donc la France prend ses responsabilités pour ce qui est de sa propre sécurité et de sa défense. C'est l'objectif de la revue stratégique, de l'actualisation de la loi de programmation militaire qui sera prise dans les prochaines semaines, en tout cas avant l'été 2018, et de la trajectoire dans laquelle j'ai inscrit la stratégie du pays. Nous sommes en train de pleinement régénérer nos forces, nos capacités et notre armée. La France a une autonomie stratégique complète, une souveraineté sur les théâtres d'opération où elle décide d'aller pour sa sécurité et ses intérêts. Et la France est pleinement inscrite dans l'effort fait et demandé par l'Alliance et s'inscrit de manière cohérente avec cet objectif de 2%. Nous avons la même démarche et la même exigence au sein de l'Union européenne. Et le projet de coopération structurée permanente au sein de l'Union européenne nous permet, en sus des efforts que nous faisons, d'avoir une composante européenne intégrée avec, dans le cadre de cette coopération, 17 projets qui existent d'ores et déjà, où nous participons ou bien où nous lidons, et qui permettent justement d'avancer de manière structurée et de manière parfaitement cohérente avec ce que fait l'Alliance. Derrière cette coopération structurée, c'est ce que pousse la France, nous souhaitons mettre en place d'une part un fonds qui permettra, non pas en substitution, mais en plus de ce que la France investit, d'investir sur ses projets au niveau européen et de développer les capacités et les modes d'intervention communs. C'est l'objectif de l'initiative que j'ai lancée à la Sorbonne et qui constitue une première phase de discussion entre les ministres de la Défense. Donc qu'il s'agisse du niveau national, du niveau européen ou de notre place au sein de l'Alliance, nous nous donnons les moyens de tenir justement les opérations, la stratégie qui correspond au discours que j'ai eu en augmentant substantiellement nos moyens, nos capacités et notre contribution.
I'm not concerned about the fact that
je ne suis pas préoccupé par les grandes ambitions du président Macron au nom de la défense européenne. En fait, je le salue. Il n'y a aucune contradiction entre une Europe forte et un lien transatlantique fort. En fait, plus l'Europe est forte, plus fort est le lien transatlantique, car une Europe plus forte peut mieux contribuer à un partage de fardeaux plus équilibré. Donc, ce n'est pas un choix, c'est un faux débat entre un lien transatlantique fort et une Europe forte. Les deux vont de pair. C'est le message principal que j'ai toujours fait passer depuis le début de mon mandat en tant que secrétaire général. L'OTAN doit accueillir favorablement une Europe plus forte, car cela renforce l'Union européenne, cela va renforcer l'Europe, ce qui nous permet de renforcer le partage de fardeaux au sein de l'Alliance transatlantique. Je salue également le fait que l'Union européenne se penche désormais sur des projets concrets pour voir comment développer de nouvelles capacités, car ces capacités-là vont renforcer la défense européenne et vont renforcer le pilier européen au sein de l'OTAN. Il ne saurait avoir de concurrence entre l'OTAN et l'Union européenne. Nous savons que environ 94% des citoyens de l'Union européenne vivent dans un pays de l'OTAN. Nous savons que 22 pays membres de l'Union européenne sont également pays membres de l'OTAN. Donc avoir une concurrence entre les deux organisations reviendrait à se livrer en concurrence avec nous-mêmes, ce qui ne servirait à rien. De plus, les alliés non-Union européenne jouent un rôle très important pour la sécurité européenne. Après le Brexit, les alliés non membres de l'Union européenne assument environ 80% de dépenses de défense de l'OTAN et 3 des groupements tactiques dans les pays baltiques sont menés par des pays non-Union européenne. Donc, on ne peut pas choisir entre les deux, on a besoin des deux éléments pour notre sécurité. Il n'y a qu'un seul domaine qui me préoccupe légèrement quand il s'agit de les ambitions de la France, c'est le handball. Car la Norvège avait prévu de remporter. Malheureusement, nous avons perdu le match, mais en tant que secrétaire général de l'OTAN, je me félicite de voir que la France est un allié, est un pays membre de l'OTAN. Donc c'est l'OTAN qui a gagné le match.
C'était une autre question.
Oui, Monsieur le Président. Bonjour, Patrick Sauze de BFM TV. Sur le dossier syrien qui inquiète aussi l'OTAN. Vous avez estimé dans un entretien diffusé dimanche soir qu'il fallait parler à Bachar al-Assad. Le problème, c'est que Bachar al-Assad, on l'a bien compris, lui ne veut pas vous parler. Il vous a même répondu assez vertement hier en accusant la France d'être un soutien du terrorisme et de ne pas avoir sa place dans de possibles processus ou pour parler de paix. Au-delà des coups de fleuret diplomatiques, on l'a vu avec le ministre des Affaires étrangères juste à côté de moi hier, il y a un processus de paix qui, lui, n'avance pas. Bon, c'était jeudi, ça s'est terminé par un échec. Alors comment pensez-vous réussir là où tout le monde a échoué en vous imposant en plus un défi supplémentaire qui est d'amener un homme à la fois à la table des pourparlers et devant un potentiel tribunal international?
Écoutez, je ne reviendrai pas en effet sur les propos déplacés qui ont été tenus. Le ministre y a parfaitement répondu. Et cette réponse suffit à l'intéresser. Pour ce qui est du reste, les pourparlers, comme vous l'avez dit, n'avancent pas. Qu'il s'agisse d'ailleurs de ceux qui ont constitué une alliance et essaient de construire une paix qui serait mécaniquement précaire puisqu'elle est déséquilibrée. Le processus dit d'Astana ou de Sochi n'aboutit pas aujourd'hui à un résultat parce qu'il n'est pas inclusif. Parce qu'il ne représente pas et ne permet pas une juste représentation des opposants à M. Bachar el-Assad. Je ne crois pas pour ma part qu'on puisse construire une paix durable et une solution politique sans la Syrie et les Syriens. Je ne crois pas pour autant que la Syrie se résume à Bachar el-Assad. Voilà ma position. Donc nous avons sur le plan militaire une priorité, la guerre contre Daesh. C'est pour ça que ces propos étaient inacceptables. Si quelqu'un a combattu et peut gagner d'ici la fin février contre Daesh, c'est la coalition internationale. Tous les autres ont eu des ambiguïtés. Tous les autres ont eu des priorités. C'était de frapper leurs opposants. Pas de frapper les terroristes, leurs opposants. Nous, nous avons été cohérents depuis le début. Parce que nous avons un ennemi. Cet ennemi, c'est Daesh. Le peuple syrien a un ennemi. C'est un constat que je fais. Il y a des millions de Syriens qui vivent aujourd'hui hors de la Syrie. En Jordanie, au Liban, en Turquie, à travers l'Europe, au Canada, aux États-Unis. Ces Syriens-là ont un ennemi, il s'appelle Bachar el-Assad, c'est la réalité. Et donc si nous voulons construire un processus de paix politique qui construira la stabilité en Syrie, nous nous devons de mettre les parties autour de la table et construire une transition qui permettra non pas le statu quo durable, parce que celui-ci conduirait à faire vivre des millions d'opposants politiques qui ont eu peur pour leur vie hors des frontières. Interroger le roi de Jordanie qui sera avec moi cet après-midi, le président libanais qui s'est exprimé très clairement quand il est venu il y a quelques mois, ou le président turc, ils vous diront tous les trois qu'ils ne veulent pas et ne peuvent pas garder un tel fardeau. Donc il faut une stabilité retrouvée en Syrie. C'est pourquoi ce à quoi nous comptons travailler avec nos partenaires, et là de manière très inclusive, c'est un processus où les représentants de Bachar el-Assad seront là, puisqu'il est aujourd'hui à la tête du pays. Et donc j'ai ce réalisme qui consiste à dire que ces représentants doivent figurer autour de la table, mais où il est indispensable que l'ensemble des oppositions soient présents et que nous ayons un processus politique et électoral qui permette à l'ensemble des Syriens, y compris celles et ceux qui ont fui la terreur, de pouvoir s'y exprimer et exercer la souveraineté nationale. La souveraineté nationale, ça n'est pas la violence d'un seul. La souveraineté nationale, ça n'est pas la décision des puissances extérieures. Donc je ne crois ni à la résolution d'un conflit par des puissances extérieures qui voudraient, comme un deus ex machina, imposer une paix qui viendrait d'eux. L'exemple irakien ou libyen dans notre histoire nous l'a montré. Je ne crois pas davantage à la complaisance avec quelqu'un qui pense que son pays se résume à lui-même. Donc c'est un chemin difficultueux. Le chemin de la paix est toujours difficultueux. Et le rôle de la France dans la région, c'est de construire la paix avec beaucoup d'exigences, et c'est de s'assurer que le pluralisme est partout respecté à l'égard des sensibilités politiques, ethniques ou religieuses. C'est pour cela que nous avons mis tant de soins sur le sujet libanais, parce que le Liban est aujourd'hui sans doute l'un des laboratoires exemplaires de ce pluralisme. Dernière question pour le secrétaire général.
Bonjour, journaliste de la chaîne Phoenix TV de Chine. Bonjour, monsieur le secrétaire général. J'ai une question. Que pensez-vous l'armée chinoise et aussi les relations entre l'OTAN et la Chine? Et monsieur le président, quelle est l'importance de votre première visite en Chine au janvier prévu, s'il vous plaît? Merci.
China is a nation which the...
La Chine est un pays qui a de plus en plus de puissance économique et militaire. Pour l'OTAN, il est donc important d'avoir une relation avec la Chine. Nous avons un dialogue politique avec la Chine. Nous souhaitons renforcer ces contacts avec la Chine. En même temps, la responsabilité première de l'OTAN, c'est la défense collective en Europe et pour les pays alliés. Nous ne sommes pas une alliance globale, nous sommes une alliance de sécurité régionale.
Au déplacement que je vais effectuer en effet en Chine en tout début d'année prochaine, c'est un déplacement à la fois amical et stratégique. Amical parce que ce sera l'occasion de poursuivre l'échange avec le président Xi que nous avions entamé il y a plusieurs mois, et parce que c'est la relation qui unit nos deux pays depuis le début. Et stratégique parce que je souhaite que nous puissions avancer de manière très concrète sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan scientifique et sur le plan de la stratégie internationale ensemble. La Chine est un allié essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique. Son engagement a été important dès la décision américaine. Encore la semaine dernière où le vice-premier ministre, Makai a annoncer la volonté de la Chine de mettre en place un vrai marché carbone, stratégique aussi parce que la volonté chinoise d'être une puissance multilatérale est pour nous extrêmement importante. Et donc il est essentiel que nous puissions échanger nos vues. J'expliquerai quelle est aujourd'hui ma vision de l'ordre du monde. J'écouterai et j'échangerai avec le président Xi. Et puis ce sera l'occasion pour nombre de nos entreprises de continuer à développer des liens sur un marché essentiel. Et moi, je le vois, ce déplacement, comme celui ouvrant une page de notre histoire commune, marquée par l'ambition partagée et la réciprocité. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.
Thank you so much.